La dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Et nous poursuivons sur ce sujet, bien entendu, en cette journée spéciale de France Culture consacrée au Brexit. Oui, leave or remain, c'est cette nouvelle question, après être ou ne pas être, que se posent les Britanniques, un peu plus de 41 ans après le premier référendum qui, en 1975, avait donné victoire aux partisans d'un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ils voteront donc, jeudi, pour ou contre la sortie de l'Europe. Au-delà des lignes de clivage sur l'immigration, sur l'économie, qu'est-ce qui se joue dans ce référendum et quelle idée de l'Europe et même quelle conception du Royaume-Uni se dégage de cette campagne? Le peuple britannique semble profondément divisé et votre invité Alain Lamassoure en a parlé dans votre journal, Antoine. Eh bien, que pensent-ils ces Britanniques de l'Union européenne? Que pensent-ils d'eux-mêmes? C'est toutes ces questions que nous allons poser à nos deux invités aujourd'hui. Pauline Schnapper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, membre de l'Institut universitaire de France et auteur du grand malentendu « La Grande-Bretagne et l'Europe » qui a paru en 2000 aux éditions des presses de Sciences Po. Et puis à vos côtés se trouve Laetitia Strauch-Bonnard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en histoire, spécialiste de la vie des idées en Grande-Bretagne où vous vivez actuellement. Et auteur de « Vous avez dit conservateur » paru aux éditions du Cerf en début d'année, mais qui ne porte pas spécifiquement cette fois sur les Britanniques. J'aimerais vous demander à toutes les deux, peut-être d'abord à vous Laetitia Strauch-Bonnard qui vivez là-bas, ce que vous pensez de ce débat. Est-ce que ce que vous entendez, c'est des arguments rationnels ou émotionnels? Il y a un documentaire qui est passé sur Arte cette semaine. On sentait plutôt une peur contre une autre peur, avec d'un côté les pro-Brexit qui brandissent la menace de l'immigration, de l'autre les pro-Europe, celle de la récession. Mais ça semble beaucoup plus émotionnel que rationnel tout ça. Qu'en pensez-vous ?
Vous avez raison. Mais tout d'abord, c'est un débat que je trouve passionnant et qui a été passionnant jusqu'à présent. En même temps, c'est un débat qui, pour moi, est duel au sens où il y a un débat intellectuel, un débat politique, celui qui est mené par les représentants politiques, mais aussi par certains journaux et certains commentateurs de très bon niveau. Mais d'un autre côté, vous avez le débat mené par les tabloïds. Alors, peut-on appeler ça un débat? La campagne Vote Leave opposée à l'autre campagne Remain est donc une dimension beaucoup plus agressive, beaucoup moins sympathique de ce débat. Donc là, oui, nous avons une dimension irrationnelle. Irrationnelle aussi parce que malheureusement, les tabloïds, comme les campagnes, ont diffusé des chiffres pas forcément faux, mais parfois un petit peu inexacts ou bien sans vraiment les expliquer. Donc malheureusement, il y a ces espèces de fantasmes qui circulent, notamment sur, par exemple, ce que le Royaume-Uni dépense pour l'Union européenne ou sur l'immigration. Mais c'est dommage parce que, d'un autre côté, il y a une dimension intellectuelle dans ce débat et peut-être qu'on n'en a pas vu toute la mesure en France.
Peut-être nous en dire un mot, justement, de cette dimension intellectuelle qu'on ne voit pas forcément comment le débat s'organise. Très rapidement, on y reviendra, évidemment.
Tout à fait. Le monde intellectuel en Grande-Bretagne tourne autour de journaux, tout d'abord, de magazines, mais aussi de think tanks, qui sont des instituts de recherche ou des instituts qui défendent un certain nombre d'idées plus ou moins basées sur la recherche. Et il y a des intellectuels, bien sûr, en Grande-Bretagne, mais c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu moins présents que chez nous. Donc les gens qui s'expriment aujourd'hui pour ou contre le Brexit sont plutôt des commentateurs en vue des grands journaux ou des gens importants dans les think tanks. Et en effet, de ce côté-là, vous avez des conservateurs, mais aussi des travaillistes qui ont débattu de façon tout à fait modérée et tout à fait honnête, avec de vrais arguments, dans des journaux comme Le Spectator, comme Prospect, comme The New Statesman. Et vous avez aussi des think tanks comme le Center for Policy Studies, comme le Institute of Economic Affairs, comme Policy Exchange, qui sont de vraies plateformes d'idées et de débats.
À vous, Pauline Schnapper, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Laetitia Strauss-Bonnard sur la dualité de ce débat?
Oui,
déjà,
tout à fait. Ce qu'on en voit surtout, c'est la partie la moins agréable, qui est l'espèce de déferlement de démagogie qui provient quand même essentiellement du camp du Leave, même si Cameron n'a pas été tout à fait non plus innocent dans l'affaire. Mais disons que s'il fallait comparer le niveau de mensonge et de démagogie, je pense quand même que le camp du Leave l'emporte largement, que ce soit chez Nigel Farage ou chez Boris Johnson, qui est censé faire partie d'une droite plus respectable que UKIP. Une fois de plus, parce que c'est un phénomène qu'on a vu en France en 2005 et qu'on a vu ailleurs, les référendums sur l'Europe, sur lesquels on pourrait réfléchir sur le principe même, les référendums sur l'Europe donnent lieu à cette espèce de déferlement de passion. Alors pourquoi particulièrement sur l'Europe? Parce que l'Europe permet de soulever une série de problèmes sur l'identité. Qui sommes-nous? Que devenons-nous dans la mondialisation? Voulons-nous être une société ouverte ou fermée? Toutes sortes de problèmes, j'allais dire, vraiment de fond, que le quotidien politique n'aborde pas vraiment quand on parle des questions économiques et qui sont importantes et en même temps qui traversent les clivages politiques traditionnels. C'est-à-dire que ce ne sont pas des questions de droite ou de gauche. On le voit très bien dans la campagne en ce moment au Royaume-Uni, même si on a quand même en gros des clivages qui correspondent en gros aux deux grands partis, mais ça n'épuise pas le sujet. Parce que donc l'Europe, ou plus exactement à travers l'Europe, on s'interroge sur des questions beaucoup plus profondes sur l'avenir du pays.
Justement, peut-être qu'on pourrait en rester une minute sur cette, au-delà de la démagogie, sur ce débat de fond, l'identité, qui est une question qui peut éventuellement se poser. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a deux conceptions du rôle de la Grande-Bretagne dans l'Europe et dans le monde qui s'affrontent véritablement et qui sont toutes les deux, finalement, des conceptions défendables?
Oui,
et lesquelles sont-elles?
Alors, pour simplifier beaucoup, mais on a en gros une vision qui est... Alors, le camp du Leave est en fait partagé entre deux visions qui sont totalement antagonistes et dont on ne se rend pas bien compte quand on regarde la campagne, parce qu'on les met tous ensemble, mais il y a en fait deux visions assez différentes. Il y a la vision, je dirais, conservatrice traditionnelle, qui soutient le libre-échange, l'ouverture au monde, et qui dit que l'Europe, finalement, c'est sclérosé, c'est le déclin économique, c'est la petite Europe qui nous bride et qui nous empêche de profiter des bénéfices de la mondialisation. C'est une vision qu'on appelle hyper-globaliste dans notre jargon de sciences politiques, qui est en gros le monde contre l'Europe. Et donc, c'est une vision quand même ouverte, relativement. Et puis, dans ce même camp de gens qui veulent sortir de l'Union européenne, vous avez des gens qui auraient prétendent dire la même chose, mais qui en fait ont une vision complètement opposée, qui est celle de la fermeture. C'est le Little England, c'est la fermeture des frontières, c'est le repli sur soi, sur une espèce de nostalgie du passé impérial, où on était entre nous, entre blancs, et où tout allait bien, et où on était la première puissance mondiale. Et cette espèce d'espoir, de fantasme, que peut-être on pourrait revenir, plus ou moins, aux années 50, quoi, en gros. Ce sont deux visions qui, en fait, n'ont rien à voir, mais qui combattent ensemble pour sortir de l'Union européenne, même si elles viennent de deux points de vue, finalement, très différents sur le monde.
Comment expliquer, d'ailleurs, Laetitia Strauss-Bonnard, vous qui connaissez très bien les conservateurs, et notamment les conservateurs anglais, que ces conservateurs, que ce soit des intellectuels ou des politiques, soient aussi divisés, alors que la critique du Brexit vient quand même essentiellement de la gauche, d'une gauche qui semble moins divisée que les conservateurs ne le sont aujourd'hui?
Les conservateurs sont divisés sur la question de l'Europe depuis très longtemps, depuis les années 60, c'est-à-dire depuis les premières tentatives d'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. Ils sont divisés parce que, à partir de l'après-guerre, le Royaume-Uni est entré dans une période assez peu faste, et les dirigeants conservateurs de l'époque, les premiers ministres conservateurs, ont vu dans l'Europe une grande opportunité. L'opportunité d'un marché, pas du tout un idéal, comme les Français ou les Allemands ont pu voir l'Europe, mais une grande opportunité de prospérité. Or, au fur et à mesure où la situation du Royaume-Uni s'est améliorée, eh bien, à l'intérieur du Parti conservateur, une espèce de division est apparue. Ceux qui défendaient cette vision un peu, qui se voulaient pragmatiques, se dire, bon, restons dans l'Europe, voyons où elle nous amène. Et d'autres qui, à partir des années 80, ont été de plus en plus présents et qui ont critiqué de plus en plus fortement une Europe qu'ils trouvaient beaucoup trop bureaucratique et beaucoup trop peu libérale. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder les années 80 et le discours de Thatcher, de Margaret Thatcher, sur l'Union européenne. Jusqu'aux années 85-86, elle négocie le rebate, donc le rabais, l'argent qu'on reverse au Royaume-Uni, que l'Union européenne reverse au Royaume-Uni. Et en 88, elle fait un discours très important à Bruges. Et là, c'est une espèce de tournant où elle exprime très clairement que pour elle, pour les conservateurs, l'Europe doit être une Europe de nations. Et ce qui compte, c'est la souveraineté. Donc le mot est lâché. Tout à l'heure, vous parliez de la question de l'identité, ouverture, fermeture. La vraie question pour ces conservateurs-là, c'est la question de leur souveraineté. Et ils ont une histoire absolument extraordinaire en la matière, puisque depuis au moins John Locke, ils ont défini la souveraineté. Et pour eux, la souveraineté va de pair avec le consentement d'un peuple. Or, pour ces conservateurs, c'est très simple. L'Union européenne n'est pas constituée par un peuple. Donc elle ne peut pas légitimer de souveraineté et ni de responsabilité des élus vis-à-vis de leurs électeurs. Donc c'est pour cette raison que vous avez aujourd'hui ces deux familles de conservateurs qui ne cessent de se disputer depuis les années 80, qui ont d'ailleurs plus ou moins provoqué la chute de Thatcher en 89, 90, qui ont aussi rendu le mandat de John Major très compliqué. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les conservateurs ont été dans l'opposition. Dans l'opposition, ils ont été obligés de travailler ensemble. Donc dans les années 2000, ils ont dû mettre derrière eux ces divisions et ils ont gagné. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, ils ont trop de chance. Tout leur réussit et les vieux démons ressurgissent. Cette ancestrale division des deux camps à l'intérieur du parti.
Oui, mais alors vous parlez de peuple, un peuple contre le monde. On pourrait aller encore plus loin, on pourrait dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, les Britanniques sont un peuple? Il y a quand même plusieurs pays. Je ne sais pas, vous en parlez dans le journal ensemble, je ne sais pas où en sont les Écossais, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles par rapport à l'Angleterre. Il y a tout un dossier dans Marianne qui paraît sur les Anglais, justement, et avec des questions posées à un certain nombre d'artistes, d'intellectuels, d'hommes politiques sur la conception même de ce que c'est qu'être britannique aujourd'hui. Par exemple, voilà ce que dit Théodore Zeldin, le sociologue et historien des idées. Il dit « Moins de la moitié des Britanniques se disent définis de façon optimale par l'épithète britannique. 44% d'entre eux pensent qu'ils sont plus adéquatement définis par les termes anglais ou londoniens. Nombre de mes compatriotes ne se sentent pas très intensément européens. Spontanément, ils se perçoivent comme des citoyens du monde. » Donc, qu'en est-il de la conception même des Britanniques quant à leur peuple, uni ou pas? Pauline Schnapper.
On parle de crise de l'identité britannique depuis des années maintenant. Hein. Et l'Europe a été un des facteurs, parmi d'autres, et notamment les autres étant le multiculturalisme britannique, les questions identitaires en Écosse, au Pays de Galles, enfin toute la problématique autour de la dévolution. Mais l'Europe a été un des événements ou des processus qui ont ressoulevé la question de l'identité commune. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui nous relie? Dans le passé, c'était clair, c'était l'Empire, d'abord et avant tout. C'était la richesse aussi, hein. C'était la prospérité économique et c'était la religion. Depuis 1945, on a perdu à peu près tout ça. On est entré dans une Europe qui menace peut-être de nous dissoudre. Donc, que reste-t-il de cette identité britannique? Et ce qu'on voit effectivement, ce que vous citiez Zeldin, mais il y a eu une série d'études là-dessus, c'est que depuis une vingtaine d'années, les Britanniques ont tendance à moins se définir eux-mêmes comme Britanniques que comme Anglais, Écossais, etc. Et ce qui avant ne paraissait pas poser de problème, c'est-à-dire la multi-identité, si je puis dire, c'est-à-dire le fait de pouvoir se définir à la fois comme très Écossais, mais aussi très Britannique et voire Européen, ces identités multiples, qui sont, je dirais, bien connues de tous ceux qui travaillent sur les questions identitaires, il n'y a pas d'opposition entre plusieurs identités, elles posent problème de nouveau aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire non plus, il ne faut pas dramatiser, que l'identité britannique a complètement disparu. Si vous regardez ces mêmes sondages, elle reste forte, mais moins forte qu'elle ne l'était il y a 40 ans.
Sur cette question, Laetitia Strauss-Bonnard.
Ce qui est frappant tout d'abord, c'est que les partisans du Brexit, et notamment les conservateurs, sont assez fatalistes. C'est-à-dire que la plupart déplorent l'idée d'une Grande-Bretagne qui se morcellerait. Il déplore l'idée d'une Écosse indépendante, mais en même temps, il l'accepte. Et j'ai beaucoup entendu, en tout cas de leur part, cette espèce d'acceptation passive, c'est-à-dire oui, les Écossais veulent partir, peut-être les Gallois le voudront-ils, les Irlandais du Nord, pourquoi pas. Eh bien, restons ensemble, restons anglais et mettons en valeur cette identité anglaise. Je pense notamment au philosophe conservateur Roger Scruton, qui a écrit un ouvrage, England, an Elegy, donc Angleterre, une élégie, où il raconte son amour de l'Angleterre. On voit bien que pour lui, être anglais, ça n'est pas la même chose qu'être britannique. Et à ce sujet...
C'est exactement ce que dit Ken Loach aussi dans ce journal. Il dit, pour moi, la Grande-Bretagne est synonyme d'empire et d'impérialisme, en l'occurrence, non ? Vous voyez comme quoi c'est plus compliqué. Et pour moi, la Grande-Bretagne est synonyme d'empire et d'impérialisme de la part de la classe dominante anglaise. C'est tout ce que je déteste. L'Angleterre, en revanche, c'est une langue, des paysages, la littérature, la poésie, le théâtre, l'humour, tout ce que je chéris. Voilà ce que dit Ken Loach.
Mais c'est intéressant de voir que Ken Loach et Roger Scruton se rencontrent sur ce point. Cela me fait penser aussi que j'ai interviewé un penseur qui s'appelle David Macrand, qui est lui gallois, et qui a eu une remarque très intéressante. Pour lui, la question du Brexit est en fait l'expression de la crise d'identité anglaise. C'est-à-dire que c'est le moyen qu'ont trouvé les Anglais pour poser la question de leur identité et essayer de l'affirmer. Parce que le problème aujourd'hui pour les Anglais, c'est qu'ils n'ont pas leur propre parlement. Vous avez un parlement en Écosse, grâce à la dévolution. Vous avez une Irlande du Nord plus ou moins indépendante. Ils ont aussi un parlement. Vous avez un Pays de Galles qui a aussi sa propre assemblée, mais l'Angleterre n'en a pas. Donc peut-être qu'une des solutions aussi, dit David Macrons, c'est de réfléchir aussi à une dévolution interne à la Grande-Bretagne qui concernerait l'Angleterre et qui leur offrirait leur propre parlement.
Pauline Schnapper.
Oui, tout à fait. La question de l'identité anglaise est effectivement cruciale et c'est pas un hasard si UKIP n'a quasiment de succès, encore que c'est en train de changer un petit peu, mais qu'en Angleterre. C'est-à-dire qu'il a beau s'appeler UK Independence Party, c'est un parti très anglais. Et on voit clairement que c'est un parti qui s'adresse à des Anglais mécontents. Beaucoup plus qu'à des Écossais ou des Gallois. Cela dit, je suis pas sûre qu'il y ait une demande de la part des Anglais pour un Parlement anglais. Qu'il y ait des sentiments troubles et pas toujours très positifs à l'égard des Écossais, des Gallois, qui ont plus d'argent que nous, qui ont des privilèges que nous n'avons pas, ça sûrement, mais il n'y a pas de demande politique, ou du moins exprimée directement. Il y en a une indirecte, je dirais, via le vote UKIP, mais il n'y en a pas direct. Et donc l'idée qu'il suffirait ou qu'il faudrait créer un Parlement anglais en plus du Parlement de Westminster, quand on sait que l'Angleterre représente 85% de la population britannique, ça me paraît pas très réaliste, ni être vraiment sur la table aujourd'hui.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Qu'est-ce qui se joue dans le débat britannique pour ou contre le Brexit, leave or remain, rester ou partir? Nous posons la question à nos deux invités aujourd'hui. Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, et Laetitia Strauch-Bonnard, chercheuse en histoire et spécialiste de la vie des idées en Grande-Bretagne. Une question d'Antoine Mercier.
Oui, qu'est-ce qui se joue? Apparemment, si je comprends bien, c'est quand même en grande partie et au fond, l'identité de ce pays, alors Royaume-Uni ou Angleterre. Et la question est de savoir comment on la définit, cette identité. J'ai l'impression qu'en vous entendant, et dans le paradoxe et serait le suivant, c'est qu'on a un peuple particulier, bien déterminé, qui a comme vocation essentielle, finalement, d'être des citoyens du monde. Et cette particularité-là, qui les amène à l'universalisme, se trouve heurtée non pas directement en tant que tel, mais dans sa capacité à être citoyen du monde, comme si l'Europe allait empêcher les Anglais d'être ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire ce peuple précisément qui a ce rapport universaliste. Est-ce qu'on peut dire que ça touche aussi cette corde-là ?
Oui, tout à fait, au moins pour une partie de la population, parce qu'on n'a pas fini tout à l'heure quand on... On parlait des différentes conceptions qui sont apparues dans le débat autour du référendum. Il y a donc tout ce débat sur nous sommes dans, disons, la tradition du grand large par opposition à l'étroitesse du continent, et finalement nos liens sont plus forts avec le Canada et l'Australie qu'avec nos voisins. Ça, c'est un discours qu'on entend depuis 50 ans, qu'on croyait, pour tout dire, qui avait disparu et puis qui revient à la surface à l'occasion de ce référendum. Mais je dirais quand même qu'il faut pas non plus caricaturer. Ça n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Si vous regardez du côté du Parti travailliste, par exemple, du Parti travailliste aujourd'hui, et disons des 20 dernières années, pas celui des années 60, hein, et pas celui de Jeremy Corbyn non plus. Mais le parti c'est quand même plus de 200 députés, des militants et des électeurs. Alors, la question des électeurs est un petit peu différente, et pour beaucoup, on est en train de se rendre compte dans cette campagne qu'ils sont finalement très proches de la vision que vous venez d'exprimer, anti-européenne. Mais disons, en tout cas, le parti, les élites du parti, le leadership du parti, les élus, ont une vision, je dirais, qui est beaucoup plus proche de la nôtre, c'est-à-dire que nous appellerions une vision réaliste, qui est que la réalité, elle n'est pas seulement géographique, hein, en Europe, mais elle est aussi économique et politique, et que les partenaires évidents et premiers du Royaume-Uni, ce sont ses voisins européens. Donc il ne faut pas non plus, je dirais, tomber dans l'excès de penser que tous les Britanniques ne pensent qu'en termes de grand large.
Oui, là, vous parlez de réalisme, mais en fait, on peut dire aussi qu'il y a un pragmatisme aussi qui fait partie de l'identité anglaise, britannique, c'est de dire on a un système là qui, finalement, si on fait les avantages et les inconvénients, nous intéresse pas, ne nous apporte pas suffisamment, nous empêche, et c'est par pur pragmatisme que nous allons dire non.
Non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. D'abord, je suis très prudente sur l'usage du terme pragmatisme qu'en France on accole toujours aux Britanniques. On est les seuls d'ailleurs à utiliser mais constamment ce terme pour parler des Britanniques.
Parce qu'on est des théoriciens.
Oui, peut-être, mais en tout cas, quand on voit le débat là depuis quelques semaines, le moins qu'on puisse dire, on n'est pas dans le pragmatisme. Hein. On est dans la passion, l'idéologie et l'émotion. Hein. On est très loin d'un débat rationnel et pragmatique de coût-bénéfice, je dirais. Hein. Parce que si c'était le cas, le résultat de ce débat-là serait évidemment pour rester. C'est-à-dire, si les Britanniques étaient aussi pragmatiques qu'on le dit, on ne serait pas on ne sait pas quoi, mais 50-50 ou 51-49 ou 52-48 pour sortir. Donc méfions-nous, si je puis me permettre, de cette étiquette de pragmatique. Les Britanniques ne sont ni plus ni moins que les autres peuples européens. Ne les essentialisons pas, si je puis me permettre.
Laetitia Strauss-Bonnard.
Ce que vous dites est intéressant, c'est que en fait, ils voudraient partir, mais pour des raisons totalement irrationnelles et non pragmatiques. Je pense que c'est en fait un mélange des deux. C'est qu'à la fois, pour eux, il y a un calcul de coût-bénéfice. C'est-à-dire que pour les partisans du Brexit, eh bien, ils ont intérêt à sortir. Ils trouvent beaucoup d'intérêts économiques, ils trouvent des intérêts vis-à-vis du contrôle de l'immigration et surtout l'idée de se débarrasser de toute la régulation européenne. Donc il y a, alors appelons ça autrement que du pragmatisme, mais une forme d'opportunisme aussi, de calcul et de sentiment. Mais pour eux c'est vrai, et moi j'ai tendance à penser qu'ils ont souvent raison. Donc souvent là nous sommes en désaccord.
Pourquoi vous pouvez préciser?
Alors sur les questions économiques, il est déjà très difficile de savoir. C'est-à-dire que les pronostics ne sont jamais sûrs. Ils sont ce qu'ils sont. Et l'économie dépend aussi beaucoup de la confiance et de l'état d'esprit d'un pays. Il est tout à fait possible que même en cas de Brexit, même après une courte période difficile, le Royaume-Uni s'en sorte très bien. Donc au plan économique, il ne se trompe pas forcément. Ensuite, là où tout sera peut-être un peu plus compliqué que les Brexiteurs ne le pensent, c'est dans la période de négociation avec l'Union européenne, et c'est surtout dans la capacité à signer ou non des traités de libre-échange avec un certain nombre d'ensembles et un certain nombre de pays. Et en effet, là-dessus, ils sont peut-être plus, en tout cas rêveurs, que totalement pragmatiques. Mais je ne pense pas qu'ils soient complètement irrationnel. Ils ont simplement le sentiment que l'Europe les étouffe. Mais par rapport à votre première question sur l'Europe, je pense qu'il faut distinguer quand même l'Europe et l'Union européenne. Pour beaucoup de partisans du Brexit, l'Europe existe et ils aiment l'Europe. Beaucoup de conservateurs aiment l'Europe. Ils aiment la culture européenne. Ils aiment les nations européennes. Ils peuvent en parler. Ils parlent énormément aussi de l'intervention de la Grande-Bretagne dans les deux guerres mondiales, ils en sont très fiers. Beaucoup de conservateurs avec lesquels j'ai discuté reviennent sur ces moments de l'histoire. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'Union européenne. Donc c'est là qu'on voit quand même la distinction entre l'entité politique, pour eux, bureaucratique, et l'entité culturelle.
Là, ça ressemble un petit peu à ce débat que nous avons eu en France il y a 10 ans, au moment du référendum. Cette partition entre les eurosceptiques profond, qui était beaucoup plus rare finalement que les eurosceptiques qui étaient contre l'Europe libérale telle qu'aujourd'hui l'Union européenne la propose.
Tout à fait.
Les partisans du non n'étaient pas des anti-européens au sens où ils n'aimaient pas l'Europe.
Tout à fait. C'est exactement ce que Margaret Thatcher avait dit dans son discours de Bruges en 1988. Elle termine son discours en disant l'idée d'Europe n'appartient à personne. Et je pense qu'elle était profondément européenne au sens d'une Europe des nations. Des nations souveraines.
Vous n'avez pas l'air d'accord, Pauline Schnapper, avec ce
comparatif? Si, je suis
hâtif de ma part.
Je crois que il y a évidemment des points communs entre les différentes campagnes référendaires sur lesquelles on pourrait revenir. En France, en 2005, il y avait effectivement un nom qui se disait pro-européen sur le thème nous voulons l'Europe au sens de l'Union européenne. C'était pas une espèce de vague culturelle comme quand Boris Johnson dit j'adore aller passer mes vacances en Espagne, si vous voulez. C'est pas ça qui le rend européen.
C'est pas à ça que je faisais allusion.
Non, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est ce que lui dit. C'est ce qu'on entend constamment, et moi je trouve ça extrêmement agaçant, tous ces gens qui vous disent ah, mais moi j'ai une femme française, donc je suis tout à fait pro, ou une femme allemande, c'est le cas de Nigel Farage, donc j'aime l'Europe. Mais c'est pas la question, quoi. C'est pas le débat. Et donc, pour revenir à 2005, il y avait un discours en France qui était porté par la gauche, qui disait on est contre cette Europe-là. Bon, mais pas contre l'Union européenne.
Est-ce qu'on entend
ça qu'elle soit différente
aujourd'hui en Grande-Bretagne ?
C'est pas vraiment ce qu'on entend en Grande-Bretagne aujourd'hui. Dans le camp du non, c'est on n'aime pas l'Union européenne. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Et dans le camp du oui, et c'est peut-être pour ça qu'il a tellement de mal à être audible, c'est on n'aime pas trop l'Union européenne comme elle est, mais il ne faut quand même pas en sortir. Il nous manque toujours le discours positif qu'il n'y a pas au Royaume-Uni depuis 40 ans et qui, évidemment, ne peut pas apparaître en 3 semaines.
Est-ce que
avant
c'est pas
référendum.
Ça qui s'est produit précisément dans la campagne? Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discours positif sur l'Europe et en revanche, est né un discours positif sur la sortie. Enfin, il s'est conforté, ce discours. Ce qui explique qu'à un moment donné, tout d'un coup, on a l'impression que le vote bascule du côté du Brexit.
Si vous pouvez pas avoir une culture politique qui vous répète depuis 40 ans que l'Union européenne, c'est des problèmes, des contraintes, que ça coûte cher, que c'est corrompu, que c'est mal organisé, que c'est pas démocratique. Et puis, du jour au lendemain, parce que ça a été quand même, en gros, ce qu'a fait David Cameron en février dernier, vous expliquez que finalement, bon, si, c'est bien, il faut y rester, et penser qu'en 2 mois, on va convaincre des gens à qui on répète depuis 40 ans que c'est mauvais. Enfin, je veux dire, il fallait être d'une naïveté confondante pour organiser un référendum dans un tel contexte, je dirais, de culture politique.
Laetitia Strauss-Bonnard.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ajouterais qu'il y a aussi des gens qui ont essayé d'aimer l'Union européenne jusqu'à la fin et qui ont pris parti pour le Brexit, un petit peu la mort dans l'âme. En tout cas, j'en connais un certain nombre et je pense qu'ils sont sincères. Ou en tout cas, ils l'ont été jusqu'à il y a quelques années. Mais ils ont l'impression que l'Europe n'est pas, ou que l'Union européenne n'est pas réformable telle qu'elle est aujourd'hui. Alors peut-être est-ce complètement irrationnel, mais il me semble que nous en sommes arrivés à un tel point qu'il vaudrait mieux, à la limite, qu'ils sortent pour qu'ils fassent l'épreuve de la réalité. Et peut-être que la réalité leur dira que tout n'est pas si simple en dehors de l'Union européenne.
Ça,
mais
sûr.
Au moins, ils auront mis un terme à ce débat qui est de plus en plus frénétique.
Vous avez commencé tout à l'heure, Laetitia Strauss-Bonnard, en constatant la dualité du débat. Vous avez pointé d'un côté un débat intellectuel et politique, et puis de l'autre le débat des tabloïdes, disiez-vous, et de la presse, beaucoup lue, beaucoup plus que chez nous, en Grande-Bretagne. Qu'en est-il des électeurs, tout simplement? Est-ce que ce peuple, là encore, au sein du Royaume-Uni, est uni au sens où il se met d'accord en fonction d'un certain nombre de clivages que l'on retrouve peut-être là aussi en France, classe contre classe. Est-ce qu'on voit apparaître des lignes de clivage traditionnellement sociologiques entre une classe aisée et une classe populaire, âge contre âge? J'ai pu lire par exemple que les études montraient que le sentiment d'appartenance à l'Europe des Britanniques était proportionnellement inversé suivant que l'on a plus ou moins de 40 ans. Londres et la province, qu'en est-il de ce point de vue-là, Pauline Schnapper?
Alors, ce que nous montrent pour l'instant les sondages, ce sera évidemment à confirmer quand on aura les études d'après le vote, ce sont effectivement un certain nombre de clivages que vous venez de mentionner. Un clivage en matière d'éducation qui est alors pour le coup valable dans toute l'Union européenne, c'est-à-dire qu'en gros, plus vous avez un niveau d'éducation élevé, plus vous êtes a priori favorable au maintien dans l'Union européenne. Ça, c'est très clair. Alors évidemment, ce niveau d'éducation correspond peu ou prou aussi aux clivages sociaux. Hein, donc, on les retrouve, évidemment. Donc ça, c'est le premier clivage très clair. Le clivage de l'âge est intéressant parce qu'il s'est peut-être plus étonnant, c'est effectivement, ce sont les personnes âgées qui sont le plus favorables à la sortie de l'Union européenne. C'est un peu surprenant parce qu'on a tendance à penser que ce sont eux qui ont peut-être l'expérience de la Seconde Guerre mondiale et donc de la réconciliation de l'après-guerre et qui, a priori, seraient les plus... Voilà. Alors que les jeunes trouvent normal d'être riches et en paix et donc ne voient plus l'intérêt de l'Union européenne. En fait, c'est l'inverse. Alors, on a plusieurs explications. Les jeunes, ce sont les générations Erasmus, les avions low cost, les voyages, une génération beaucoup plus ouverte, au moins pour ceux, encore une fois, qui ont fait des études. Parce que c'est ensuite, il faut évidemment recouper les clivages, alors que les personnes âgées ont plus la nostalgie, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, de cette période où le Royaume-Uni était prospère, la gloire de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire, etc., et donc ne voient que les inconvénients de l'Union européenne. Donc ça, c'est le second clivage. Et puis le troisième intéressant, c'est le clivage géographique. Donc on a déjà parlé tout à l'heure du clivage entre l'Angleterre, d'une part...
Entre pays, déjà.
Alors, on ne dit pas pays,
nation. Pardon, entre nations.
Donc, entre l'Angleterre d'une part, Écosse, Irlande du Nord surtout, et Pays de Galles dans une moindre mesure. Le Pays de Galles est plus proche de l'Angleterre de ce point de vue-là, ce qui s'explique aisément. Mais il y a aussi des clivages internes à l'Angleterre, qui, là aussi, qu'il faudra confirmer, mais qui, a priori, sont entre Londres d'une part et le reste du pays, et disons entre les grandes villes. Londres et les grandes villes d'un côté, et les périphéries de l'Angleterre, les zones côtières en particulier pauvres, qui sont aussi le terrain de jeu de UKIP, là où ils ont eu leur meilleur score. Les deux, évidemment, se recoupent. Donc on a des clivages intéressants qui nécessiteront une analyse plus fine quand on aura les résultats du référendum.
Laetitia Strauss-Bonnard.
Oui, tout à fait d'accord. Par rapport au clivage sociologique notamment, il est aussi très intéressant de constater que le fait que plus vous descendez dans l'échelle sociale et plus vous êtes pro-Brexit est un argument qui est utilisé par les Brexiteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les Brexiteurs disent la chose suivante. Vous voyez très bien que l'élite veut nous imposer l'Union européenne puisque l'élite est en masse pour l'Union européenne. Donc c'est bien la preuve qu'il faut écouter le peuple ou les classes populaires. Alors on peut penser ce qu'on veut de cet argument, mais il a énormément de portée et il est soutenu y compris dans le débat que je décrivais tout à l'heure comme intellectuel. C'est-à-dire que certains intellectuels utilisent justement cette différenciation sociologique pour essayer de montrer à quel point l'Union européenne est un produit de l'élite. Et par rapport au sondage, je voulais faire une remarque. On parle énormément des sondages et les sondages depuis une semaine montrent une rupture en faveur du Brexit qui inquiète énormément l'autre camp. Mais il faut aussi regarder les paris, donc les bettings, en s'intéressant aux paris, on remarque qu'en fait les choses sont un tout petit peu plus calmes parce que les pronostics pour le Remain sont aujourd'hui à 65% et à 35% pour le Brexit. Donc ça veut dire que les gens qui font des paris pensent quand même que le Remain va gagner.
Ouais, ça veut dire que tout est encore ouvert, quoi.
Tout à fait.
On attendra donc le jeudi prochain, jeudi 23, et même peut-être vendredi 24, oui, pour savoir ce qu'il en sera. On va terminer en musique comme chaque jour. Le vendredi, c'est le choix de l'équipe. Aujourd'hui, c'est Clémence Marie qui est restée en Grande-Bretagne avec cette chanson de Jake Bugg, extrait du troisième album, On My One, de ce Britannique qui sort aujourd'hui même son troisième album chez Virgin.
opened her fares and she could not breathe, 'cause she felt scared, couldn't help but stare out of the window, even though she wouldn't go outside. She wouldn't answer the door, curtains were drawn and the house was cold. Her children were old and they did not care, that's what she thought, but they tried to help her. She wouldn't answer the door, and the love we're hoping for is dying, just like...
Merci à toutes les deux, Pauline Schnapper et Laetitia Strauch-Bonnard. Je rappelle le titre de votre livre paru en début d'année, il y a juste quelques mois, Laetitia Strauch-Bonnard. Vous avez dit conservateur, point d'interrogation, paru aux éditions du Cerf, et un livre un peu plus ancien, mais plus sur notre sujet. Non, non, me dit, vous dites non.
Tout récent, qui s'appelle Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union Européenne?
Oh, bah,
la
voilà.
Documentation française.
Ah bah non, alors c'est beaucoup plus récent, j'étais mal informée, pardon Pauline Schnapper. Merci beaucoup de cette information. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à la réalisation. C'était Philippe Baudouin, aujourd'hui à la technique, Alexandre Dang.